Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé, comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment ?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 12 avril 2021. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Je vous proposerai ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a condamné l'attaque contre le site nucléaire de Natanz. Un autre convoi logistique militaire américain a été pris pour cible dans la province de Salahuddin, au nord de l'Irak, et au Tchad, après la présidentielle du dimanche 11 avril. Le parti au pouvoir et l'opposition sont divisés sur le taux de participation des électeurs. C'étaient les principaux titres. En voici le journal. Le directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Ali Akbar Salehi, a condamné dimanche ce qu'il a décrit comme une attaque contre le site d'enrichissement d'uranium de Natanz. L'attaque contre le site d'enrichissement d'uranium de Natanz reflète l'échec de tous ceux qui s'opposent au progrès industriel et politique de l'Iran et cherchent à empêcher l'industrie nucléaire iranienne de se développer de manière significative, a indiqué Ali Akbar Salehi après l'incident survenu dans la journée de dimanche sur le site d'enrichissement nucléaire de Natanz dans le centre de l'Iran. L'Iran se réserve le droit de prendre des mesures contre les auteurs et les éléments responsables de cette attaque, a été noté, soulignant la nécessité pour l'Agence internationale de l'énergie atomique, IAEA, de réagir. Pour contrecarrer ce genre d'initiative désespérée, l'Iran continuera avec sérieux à élargir son industrie nucléaire et redoublera d'efforts pour faire lever des sanctions oppressives, a-t-il indiqué. Le porte-parole de l'OIOA, Behrouz Kamalvandi, a annoncé un peu plus tôt, dimanche, qu'un accident avait affecté dans la matinée une partie du réseau de distribution d'électricité de l'installation nucléaire de Natanz. M. Kamalvandi a indiqué que personne n'avait été blessé dans l'incident et que celui-ci n'avait entraîné aucune pollution. La cause de l'incident fait l'objet d'une enquête, a-t-il précisé. L'Iran a célébré samedi sa journée nationale de la technologie nucléaire. Au cours de l'événement, 164 centrifugeuses semi-industrielles IR6 ont été remplies de gaz et sont devenues pleinement opérationnelles dans une usine d'enrichissement d'uranium de Natanz et 30 centrifugeuses IR6S ont initié leur première phase d'injection de gaz dans la même usine. En Irak, un autre convoi logistique militaire américain a été pris pour cible dans la province de Salahuddin. L'attaque a été menée avec des bombes EFP et un groupe appelé Résistance internationale a revendiqué la responsabilité de cette attaque, selon Sabahin News. Les convois militaires et logistiques américains en Irak ont été ciblés plusieurs fois ces derniers mois. La coalition américaine a fait appel à des entreprises irakiennes locales pour se protéger de ces attaques explosion de bombes plantées en bordure de route. les forces de l'armée irakienne et des Hashd al-Shaabi ont lancé une opération de nettoyage à grande échelle contre les cellules dormantes de Daesh aux premières heures de dimanche matin. L'opération qui a été menée à Diyala, l'une des provinces frontalières de l'Irak, a mis fin aux activités clandestines de plusieurs cellules terroristes de Daesh. Lors de l'opération, une bonne quantité d'armes et de véhicules de transport ont été également saisis et des dizaines de cachettes des terroristes ont été détruites. Le service de renseignement des Hashd al-Shaabi a annoncé le bombardement de repères terroristes avec des roquettes et des missiles en publiant des images de l'opération qui a commencé le dimanche 11 avril. Lors de l'opération menée en coopération avec l'armée irakienne, plusieurs repères des terroristes ont été bombardés par les chasseurs de la force de l'air irakienne. Pour rappel, les Hashd al-Shaabi ont mis les informations sur les coordonnées des positions des terroristes à la disposition de l'armée irakienne. En Syrie, l'aviation russe lance une campagne aérienne d'envergure contre Daesh dans le désert de ce pays. Des avions de combat russes ont bombardé dimanche à l'aube des repères de Daesh dans le désert de Syrie. Les forces russes ont intensifié leurs frappes aériennes contre les sites de Daesh dans le désert de Syrie dans le but de soutenir les forces terrestres syriennes. Des avions de combat russes ont vivement bombardé les zones où les terroristes de Daesh sont déployés avant de cibler le désert d'Al-Sukhna. Dans la campagne orientale d'Homs, située aux frontières administratives entre Homs, Deir ez-Zor et le triangle Hama al-Ebraka, les frappes russes ont ciblé des repères des Daeshistes. Les opérations de combat se poursuivent dans diverses zones du désert d'Al-Mayadin par les forces gouvernementales syriennes qui y ont commencé il y a une semaine une opération de ratissage de Daeshistes, tandis que cette campagne coïncide avec d'intenses frappes aériennes des avions de combat russes sur la région. Un militaire syrien a déclaré au micro de la chaîne d'information à l'Arabie Al-Jadid que de nouveaux équipements militaires avaient été transportés dans le désert de Syrie afin de renforcer l'opération du nettoyage du désert de la présence des terroristes Daesh. Le calme était revenu dimanche 11 avril à Damasak, une ville du nord-est du Nigeria, où une attaque terroriste contre des installations humanitaires a fait au moins 4 morts, a-t-on appris de sources militaires et humanitaires. Des dizaines d'éléments du groupe ISWAP ont lancé samedi soir 10 avril une attaque sur Damasak dans l'état de Borno, où ils ont incendié des installations humanitaires et le poste de police. L'attaque, la deuxième, a visé une des 9 base humanitaire des Nations Unies dans ce pays, en un peu plus de 2 mois, a fait au moins 4 morts et 4 blessés. Un soldat a été tué et 2 autres blessés, a précisé une source militaire faisant état de la destruction de 5 véhicules des assaillants. Au moins 3 femmes ont été tuées par un projectile qui s'est abattu sur la maison où elles se trouvaient pour une cérémonie de mariage, a indiqué une autre source humanitaire. Les terroristes ont également mis le feu à la maison d'un chef local, à une installation médicale, à une ambulance et au véhicule d'une organisation humanitaire, ont ajouté les 2 sources humanitaires. Alors que les bureaux de vote pour la présidentielle ont à peine fermé, ce dimanche soir 11 avril au Tchad, le parti au pouvoir et l'opposition sont divisés sur le taux de participation des électeurs. Une victoire de la démocratie selon le parti au pouvoir et une victoire du boycott d'après l'opposition. La démocratie a triomphé, les Tchadiens ont donné une grande leçon démocratique. Les électeurs ont bravé la distance, la chaleur et le discours de la peur. Un signal politique très fort a été envoyé, a déclaré à la presse. Dimanche soir, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut au pouvoir, Mahamat Zenbada, également directeur de campagne du président Idriss Déby, candidat à sa propre succession. L'opposant Saleh Kebzabo, rival historique de M. Déby, qui s'est retiré du processus électoral, a quant à lui salué une victoire importante du boycott en qualifiant le scrutin de simulacre. Avançant un taux de participation moins de 10% des électeurs, M. Kebzabo a félicité ses compatriotes pour avoir fait preuve d'un patriotisme par leur engagement pour un Tchad nouveau. De son côté, M. Zenbada a également félicité les Tchadiens qui ont su déjouer les pièges du boycott et appeler l'opposition à se plier aux vœux exprimés par le peuple tchadien. Le scrutin de dimanche s'est déroulé dans un contexte social et politique tendu. Lors de son meeting de clôture de la campagne électorale, tenu vendredi dernier dans la capitale N'Djamena, M. Déby avait assuré à ses militants qu'il allait gagner. Les résultats provisoires sont attendus d'ici 2 semaines. L'Union africaine, l'Union européenne, l'Autorité intergouvernementale pour le développement et les Nations unies ont exprimé leurs profondes préoccupations face à la situation en Somalie. Au cours de leur dernière réunion virtuelle, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Autorité intergouvernementale pour le développement et les Nations unies ont attiré l'attention sur la gravité de l'impasse politique qui divise actuellement la Somalie au sujet du report des élections ainsi qu'au niveau du dialogue entre le gouvernement fédéral et les dirigeants de certains États membres fédérés, selon une déclaration conjointe publiée dimanche. Se déclarant gravement préoccupé par l'impact de l'impasse politique sur la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans le pays et au-delà, ces organisations ont appelé les dirigeants politiques somaliens à poursuivre sur la lancée des progrès déjà réalisés en matière de construction de l'État et de politique d'inclusion, notamment par le biais d'élections et d'une passation pacifique du pouvoir. Ils ont en outre appelé les dirigeants à défendre au plus vite les intérêts essentiels du peuple somalien en organisant des élections pacifiques, libres, justes et crédibles. Les participants à la réunion ont également exhorté tous les dirigeants somaliens à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute action susceptible d'entraîner une escalade de tensions. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. S'avise la double déboire US-Israël. De toute évidence, l'acte de sabotage commis le 7 avril par des commandos secrets israéliens de la 13e flottille sioniste, carrément filmé par les caméras amies, n'a pas suffi à stopper Ansarallah, ce dernier ayant réalisé depuis pas moins de 10 frappes aux missiles et aux drones contre les bases aériennes à Khamis Mushait, à Abha, à Jizan, à Najran, toutes impliquant drones Rasef-K2 et Samad-3, tout comme des missiles balistiques. Et pourtant, sa vise a été décrite comme étant une base flottante avec des dômes, des radars, des écrans, voire même des liens satellites, fonctionnant 24 heures sur 24 et pilotant des opérations d'Ansarallah depuis les côtes érythro-djiboutiennes sur la totalité des fronts, que ce soit à Marib, à Taez ou encore à Zahla. Ce dimanche 11 avril, les forces de l'armée yéménite et d'Ansarallah de nouvelles frappes aux drones de façon comme toujours synchrone et simultanée, ce qui est la gage de leur succès contre les aéroports de Jizan et d'Assir. À Jizan, l'aéroport militaire a été ciblé par un seul drone, tout comme la base King Khaled de Khamis Mushait à Assir, les hangars des avions dans l'un et l'autre cas étant des cibles des deux missiles de croisière. Si l'aéroport de Jizan n'a pas de batterie de Patriot, celui d'Assir ou des dizaines de leurs fighter Typhoon, de F-15 et de recopter sont stationnés en un et de plus performantes, puisque la base Roi Khaled abrite le quartier général de l'armée saoudienne sur le front sud, d'où d'ailleurs les officiers britanniques cherchent tant bien que mal à ralentir la chute de Marib. Les attaques étaient une réponse légitime à la guerre d'agression dévastatrice du régime de Riyad et au blocus paralysant contre le Yémen, a fait savoir le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Sari. Aussi au chapitre de l'endiguement des attaques aux missiles et aux drones, le coup anti-Savis a été loin d'être un succès. Visiblement, savise ou pas, la résistance yéménite est parvenue à bien établir la règle d'engagement qu'est missile contre raid aérien.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce dimanche 11 avril 2021. La République islamique d'Iran a dévoilé samedi de nouvelles réalisations nucléaires à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire. À cette occasion, le président iranien Hassan Rouhani a annoncé la mise en service de nouvelles cascades de centrifugeuses modernisées permettant d'enrichir plus rapidement dans le complexe nucléaire de Natanz. Le président Rouhani a souligné que personne au monde ne pouvait empêcher l'Iran de poursuivre son programme nucléaire pacifique et que ces nouvelles réalisations révélaient en effet le savoir-faire technologique de l'Iran. Ces annonces interviennent dans un contexte, en effet, de négociations intensives entre l'Iran et les autres signataires du PGAC, Plan Global d'Action Conjointe, dans le cadre de la commission mixte de l'accord nucléaire à Vienne. L'Iran soutient que toutes les sanctions imposées et réactivé en effet par l'administration Trump, devrait être supprimé de façon vérifiable avant de revenir au plein respect de l'accord nucléaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette journée importante, la Journée nationale de la technologie nucléaire, ces négociations, les conditions préalables de la République islamique d'Iran et bien entendu le positionnement des États-Unis et de l'Europe envers l'accord nucléaire et son avenir. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Rien ne garantira la conclusion d'un prochain accord avec Téhéran si les États-Unis ne peuvent parvenir à un accord avant que l'accord intérimaire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ne prenne fin dans moins de 2 mois, a averti un responsable iranien. L'agence de presse japonaise Kyodo News, citant un responsable iranien, a rapporté « Selon le plan proposé par Téhéran, lors d'une réunion officielle le 29 mars à Francfort et acceptée par toutes les parties lors de la réunion virtuelle de la commission mixte tenue le 2 avril, les États-Unis doivent lever toutes les sanctions imposées ou réactivées sous l'administration Trump ». Avec la présence de la délégation diplomatique de la République islamique d'Iran, des pays 4+1, à savoir la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et du secrétaire général adjoint du Service européen pour l'action extérieure qui y assiste en tant que coordinateur, le nouveau tour de pourparlers de la commission mixte a commencé le mardi 6 avril pour examiner les conditions préalables de l'Iran pour le retour des parties à leur engagement dans le cadre du PGAC après la levée pratique de toutes les sanctions imposées illégalement par les États-Unis et la vérification des faits par la partie iranienne. La République islamique d'Iran, qui avait réduit ses obligations conformément aux articles 26 et 36 de l'accord sur le nucléaire, suite à la violation par les 3 pays européens de leur obligation et au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, insiste sur la nécessité de lever pratique de toutes les sanctions pour revenir à ses engagements. Dans le même ordre d'idées, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, qui dirige la délégation iranienne à Vienne, a déclaré à Press TV « Tant que les États-Unis n'ont pas levé toutes les sanctions et ne se sont pas retournés à leur engagement, les activités nucléaires iraniennes, surtout dans le domaine de l'enrichissement, ne seront pas arrêtées, ni même réduites », en rappelant Notre enrichissement de 20% se poursuit maintenant avec un rythme plus accéléré que celui prévu dans la loi du Parlement iranien. Il a conclu en martelant « Ce processus se poursuivra de la même manière jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé selon lequel les États-Unis lèvent toutes les sanctions, comme cela a été souligné à maintes reprises. Toutes les sanctions doivent être levées en une seule étape. »
Au retour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris, et M. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. M. Michel, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, qui est à votre spectateur. Je trouve pas Mme Meïdani, qui est une géopoliticienne.
Hier, à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, M. Michel, la République islamique d'Iran a dévoilé de nouvelles réalisations nucléaires. Le président Rouhani a annoncé notamment l'inauguration de nouvelles lignes de centrifugeuses de type IR-5 et IR-6. Dans quelle mesure ces réalisations ont fait basculer les rapports de force, en particulier dans le cadre des négociations et des récentes négociations à Vienne, à M. Michel?
L'Iran est dans une position de respect de la loi internationale et la peine de ne pas avoir fait confiance et de ne pas être intimidé, non seulement par les États-Unis qui sont en faute, mais par les Européens qui proposent l'hypocrisie et de complicité. Trump, lorsqu'il s'est retiré des accords de Genève, il a traité le dossier comme s'il s'agissait d'un accord bilatéral entre les États-Unis et l'Iran. Il a oublié que c'était un accord international garanti par les Européens, non pas par Trump, mais aussi par la Chine et la Russie. Ils ont surtout oublié que cet accord est garanti par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il y avait une soirée hier soir consacré à la politique étrangère de un espèce de bilan à partir d'un reportage américain du général Pagoud et du politicien d'ailleurs conservateur de la troisième partie qui était consacré au professeur Billon, c'est qu'il a confirmé qu'absolument le pro-israélien qui est le sujet du reportage du PHDC. Derrière le lobby impact, il y a le dirigeant le genre de qui a épousé Ivoire 4, c'est lui qui a la main d'or après celle de Trump. Et le documentaire révélait ce que nous avons dit depuis longtemps, c'est une préoccupation personnelle qui est féminine, puisque j'arrête Couter et Yahoo. Ça vous explique pourquoi le sabotage de la stockement a été au cœur de la géopolitique de Trump.
Monsieur Michel, apparemment nous avons un problème technique parce que bon, on ne vous entend pas très bien. Donc en attendant que ce problème soit réglé, nous allons continuer le débat avec Madame Midani. Restez avec nous, Monsieur Michel, s'il vous plaît. Madame Midani, est-ce que vous nous entendez?
Je vous entends, mais j'ai très mal entendu toute l'intervention de Monsieur Michel.
Nous aussi, malheureusement. Donc,
je vous salue. Oui.
Merci, Madame Midani, d'être en ligne avec nous. Toujours concernant justement, alors deux questions importantes. D'une part, bien sûr, ces réalisations nucléaires qui ont été dévoilées, inaugurées hier à l'occasion de la Journée nationale de la technologie nucléaire, et parallèlement, presque simultanément, en effet, les négociations qui se déroulent entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire sur la façon de, non pas de réintégrer en effet les États-Unis dans l'accord nucléaire, mais plutôt de faire lever les sanctions injustes, illégales et unilatérales des États-Unis. Quel premier constat tirez-vous, Madame Midani, de ces réalisations et de leur impact, bien sûr, sur le cours des pourparlers entre l'Iran et les autres signataires de l'accord nucléaire?
Alors d'abord, je voudrais vous saluer et saluer l'ensemble du peuple iranien et de la direction iranienne et toute l'équipe aussi de Presse TV. Je trouve que c'est une démarche qui est très, très importante déjà d'arriver à cette suprématie au niveau, à ce haut niveau scientifique à l'ombre de toutes ces mesures imposées par les Américains et par leurs alliés, en fait, contre l'Iran, contre toutes les possibilités d'évolution et d'échange sur le plan scientifique. Je trouve que cette démarche aujourd'hui, je voudrais saluer déjà l'évolution scientifique importante et surtout au niveau de la fabrication aussi des armes, mais aussi de l'avancée nucléaire, qui est tout à fait leur droit, qui est tout à fait le droit du peuple iranien et de l'État iranien, malgré toutes ces tergiversations des Américains et de leurs alliés européens sur cette, quel que soit l'objectif de ces mesures, de ces avancées d'ailleurs, qui sont affirmées à plusieurs reprises que c'est des objectifs de paix pacifique et humanitaire, mais malgré tout, même si c'était des objectifs de fabrication de la bombe nucléaire, c'est tout à fait son droit. Je voudrais quand même rappeler que dans la région, l'entité israélienne possède quand même plus de 350 têtes nucléaires à objectif militaire et dont personne ne parle. Et il est important de les dénoncer. Ça, c'est important aussi sur le plan tactique, je dirais, de lever le voile dans cette journée de l'évolution de la science sur les nouvelles réalisations scientifiques iraniennes, en même temps que se déroulent les discussions, je dirais, ou les rencontres à Vienne pour le retour des Américains, en fait, et des Européens aussi, qui n'ont jamais respecté les accords qui ont été signés en 2016 qui devaient être signés, et pas seulement signés, ils ont été signés, mais ils n'ont jamais respecté la condition première qui était la condition de levée de l'ensemble de ces mesures coercitives sur unilatérales sur le peuple iranien et sur l'État iranien. Donc aujourd'hui, c'est très très bien. Je voudrais exprimer aussi toute ma solidarité parce que les États-Unis utilisent ces soi-disant sanctions, mais qui sont que des mesures américaines unilatérales, à tous les pays qui lèvent la tête et qui n'acceptent pas leur diktat au niveau de leur politique et qui ne se laissent pas piller leur propre richesse par eux. Donc, ça c'est aussi, je voudrais quand même souligner que ce n'est pas seulement le cas de l'Iran. Ils utilisent cette arme contre la Syrie, contre l'Irak, contre le Venezuela, contre Cuba, contre tous les pays qui lèvent la tête face à leur diktat, y compris d'ailleurs aujourd'hui contre la Chine et la Russie, parce que ils ont une politique avec laquelle les Américains ne sont pas d'accord. Donc cette politique va leur retomber sur la figure.
Merci infiniment, Madame Midani. Apparemment, nous n'avons toujours pas Monsieur Michel. Nous allons continuer avec vous, Madame Midani.
Est-ce que vous m'entendez bien aussi? Parce que moi, j'entends l'écho aussi.
Mm-hmm. Ça va maintenant? Vous nous entendez bien, Madame Midani?
Moi, je vous entends, mais quand je parle, j'entends double écho.
Apparemment, il y a visiblement un problème technique. Madame Midani, concernant les conditions préalables de la République islamique d'Iran, qu'en pensez-vous? Premièrement, la levée de toutes les sanctions et deuxièmement, la possibilité pour la République islamique d'Iran de vérifier les faits pendant, en effet, entre 3 et 6 mois, c'est-à-dire pouvoir exporter son pétrole et en recevoir les revenus par les canaux bancaires.
Absolument. Moi, je soutiens parfaitement cette politique et cette condition de l'Iran parce qu'elle est tout à fait légitime étant donné tous les jeux américains et européens, donc tous les pays de l'OTAN aussi, qui n'hésitent pas à signer des choses et qui ne les mettent jamais et qui ne respectent jamais leurs engagements, mais qui en plus ont le toupet, je dirais, d'exiger de l'autre partie d'appliquer ces mesures et d'appliquer cet accord, alors qu'eux le trahissent complètement, de bout en bout. Donc c'est tout à fait légitime pour l'État iranien d'exiger de vérifier non seulement la levée des sanctions, ce qu'ils appellent sanctions, entre guillemets, mais aussi de vérifier les effets et puis de remettre tous les circuits en route pendant 3 mois et 6 mois de manière à être sûr que tout ça, ça a été appliqué et que effectivement il y a eu une réelle levée des sanctions et un réel fonctionnement, je dirais, de tous les réseaux, donc des réseaux bancaires, pas seulement le réseau, mais en fait que toutes les transactions sont effectivement ont repris et ont été remises en route, que l'Iran ait bien reçu l'argent équivalent à son pétrole et que l'Iran au pétrole vendu et que aussi l'Iran ait pu bien sûr vendre et acheminer son pétrole. Donc en fait, et puis toutes les relations commerciales avec le monde comme il se doit et normalement comme ça doit l'être, je dirais, pour un pays souverain qui se respecte et qui a et que toutes les relations régies par les lois internationales soient tout à fait normalisées et reprennent leur cours normal entre l'Iran et l'ensemble des pays de la planète. Alors, et aussi qu'elles puissent échanger avec des compagnies, qu'elles ce soient des compagnies américaines, européennes, etc. Et que ces compagnies puissent travailler normalement aussi avec l'Iran sans qu'il y ait des mesures coercitives qui interviennent sous quelque prétexte que ce soit.
Madame Midani, alors pour le principal négociateur iranien dans les négociations, Abbas Araghchi, l'opposition de Washington à la levée des sanctions, surtout des sanctions non nucléaires, constitue le principal obstacle à l'avancée des pourparlers. Désormais, bien entendu, il appartient à l'administration Biden de décider de se conformer ou non à la résolution 2231 du Conseil de sécurité ayant approuvé l'accord. À quelle réaction, à quelle approche de la part de l'administration Biden faudrait-il s'attendre si elle est vraiment sérieuse, comme d'ailleurs elle a annoncé ces derniers temps, dans sa volonté de réintégrer l'accord nucléaire?
En fait, la première réaction, ce serait qu'eux se mettent à respecter aussi et revenir à l'accord nucléaire et respectent tous les articles de l'accord et qu'ils arrêtent les sanctions, qu'ils lèvent les sanctions et surtout qu'ils restituent au l'Iran son argent qu'ils bloquent depuis des années et en fait aussi de remettre en route, je dirais, l'ensemble de permettre la remise en route de l'ensemble des relations avec les pays et avec tout l'entourage mondial, l'environnement. Qui est jusqu'à maintenant entravé complètement par les États-Unis. L'administration Biden, pour moi, elle doit aussi arrêter les hostilités vis-à-vis de l'Iran et de la même manière imposer à ses alliés de la région, je dirais, d'arrêter leurs hostilités vis-à-vis de l'Iran. Et que donc les alliés de la région, j'entends l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, et puis l'entité sioniste occupante aussi qui n'arrête pas de mener des hostilités contre l'Iran. D'ailleurs, la dernière en date, ça a été aussi que Israël ait attaqué le pétrolier iranien en mer Rouge. Donc tout ceci est important et je crois que ce sont des aspects qui sont liés à ce retour à l'accord, pas seulement nucléaire, mais aussi à l'ensemble, à un retour à la normale de l'ensemble des relations commerciales et d'échanges entre l'Iran et tous les pays du monde.
Et une toute dernière question, Madame Idani. Quel rôle les Européens veulent ou peuvent jouer dans ces négociations?
En fait, jusqu'à maintenant, les Européens, ils ont voulu toujours être... ils sont très intéressés parce que les compagnies européennes ont envie et besoin de travailler avec l'Iran, puisque je peux dire quand même que la situation économique de ces pays est assez catastrophique, hein, surtout à l'ombre du corona, qui a d'ailleurs... qui a montré au monde à quel point leur gestion est mauvaise, hein, je dirais. Donc, ils essayent de pousser. Il y a beaucoup de compagnies, dont Total et autres, hein, qui voudraient travailler avec l'Iran et qui ont essayé à un moment donné. D'ailleurs, l'Union européenne a affirmé quand même à plusieurs reprises qu'ils voudraient continuer à respecter l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, mais ils ont été rappelés à l'ordre systématiquement par les États-Unis. Et donc là, ils ont essayé de jouer un intermédiaire pour pousser les États-Unis à revenir à cet accord. Jusqu'à maintenant, au moment du règne de Trump, ils n'ont jamais réussi parce que Trump était très déterminé à mener cette guerre contre l'Iran. On peut dire quand même que la situation économique des États-Unis n'est pas bonne non plus, et que beaucoup de compagnies ont envie de travailler aussi bien avec l'Iran aussi. Mais bon, donc Biden essaye d'envelopper, je dirais, la politique américaine par un gant de velours. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas, mais je crois que l'Iran a tout à fait raison de prendre toutes les mesures de prudence qui montrent quand même que et de pression, je dirais, qui montre que l'Iran ne cédera pas sur ses droits les plus légitimes et les plus élémentaires, et que l'administration américaine se doit d'accepter et de se soumettre à la loi internationale. Ceci dit, ça n'empêche quand même que les Américains, en fait, l'administration Biden, essaye aussi de faire des pressions sur les alliés de l'Iran, sur la Russie, sur la Chine. On voit qu'ils essayent de monter des guerres, par exemple là en Ukraine contre la Russie, qu'ils veulent aussi monter des problèmes aussi à la Chine par rapport aux Ouïghours et par rapport à Taïwan. Donc, ils essayent de titiller tout le monde pour créer des pressions et pour diminuer...
Merci, Madame Idani.
Diminuer l'impact des accords stratégiques de l'Iran avec ses alliés qui sont importants aujourd'hui, la Chine et la Russie.
Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien de questions internationales, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
Voilà.
Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Le voisin d'Alan, en raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire. Et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushic. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Merveilles. L'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire. Depuis la semaine dernière, nous avons commencé notre voyage à Ispahan. La dernière fois, nous avons parlé, grosso modo, de cette ville, la moitié du monde, comme on la surnomme en Iran, et de la province qui porte le même nom. Nous allons maintenant vous présenter plus en détail la ville d'Ispahan, chef-lieu de la province du même nom. Restez donc avec nous jusqu'à la fin de cette émission. La ville d'Ispahan est l'une des plus importantes villes industrielles et touristiques d'Iran. Elle est située dans le centre de l'Iran, au cœur du plateau iranien, à 1574 mètres d'altitude à l'est de la chaîne du Zagros. Ispahan a été fondée dans la plaine du Zayandehrud. Le Zayandehrud, une des rares et grandes rivières permanentes du plateau iranien, se jette dans un lac salé dans le désert. Le lac Gavrouni. Le bassin du Zayandehrud s'étend jusqu'à 90 km au nord d'Ispahan et les vents frais qui soufflent depuis le nord le rafraîchissent. Ce bassin qui couvre 41 500 km² au centre de l'Iran est rattaché à l'histoire d'Ispahan. En effet, la ville d'Ispahan est le centre de ce bassin. Cette position lui a partiellement donné son importance historique et économique dans l'histoire du pays. Les ressources en eau de la rivière ont augmenté de 50%, représentant 790 millions de mètres cubes au cours des dernières années du XXe siècle, grâce à la construction de deux aqueducs qui conduisent l'eau du Khurang vers le Zayandehrud. La période à laquelle a été fondée Ispahan est encore incertaine. Mais les historiens s'accordent à dire qu'au vu de sa situation privilégiée au centre du plateau iranien, la ville d'Ispahan serait l'un des premiers centres urbains établis sur le plateau iranien. Une ville nommée Aspadana, dont l'existence est attestée par des sources achéménites, pourrait être antérieure à Ispahan, mais cette hypothèse n'a pas été démontrée archéologiquement. En revanche,
il est admis qu'Ispahan était le centre d'une des provinces de l'Empire sassanite, un siège militaire au centre de l'Empire et qui se serait appelé Aspahan, nom attesté par des inscriptions sur des pièces sassanides datant du IVe siècle. Il y a par ailleurs des historiens qui imputent la fondation d'Ispahan à Tahmourès, troisième roi de la dynastie des Piches d'Adien. Ceci étant, la date de la fondation d'Ispahan aurait dû remonter à plus de 4700 ans. Le nom même de la ville, sans oublier les noms des villes et villages alentours, en témoigne de la meilleure manière des noms qui ont des origines avestiques, persans, achéménites ou pahlavis. En 644, des troupes arabes originaires de Bassora conquièrent aisément les centres urbains de Jaï et de Yaoudiye à Ispahan. En 935, les Bouyides, une dynastie musulmane d'origine iranienne, prennent Ispahan. Ils entreprennent la fortification de la ville pour en faire un centre politique de leur territoire. Murs de fortification à 12 portes, mosquées, citadelles, bibliothèques et agrandissent le bazar. À cette époque, les différents quartiers de la ville fortifiée correspondent aux anciens villages de l'oasis d'Ispahan. Au cours de l'invasion des Seljoukites et des guerres qui s'ensuivent avec les Bouyides, Ispahan est détruite. La ville est prise par Torol Beg au début du XIe siècle. C'est Malik Shah qui reconstruit Ispahan et en fait sa capitale après son accession au pouvoir en 1073, remplaçant ainsi Rey à ce statut. Cette époque, sous l'impulsion de Nizam al-Mulk, le célèbre vizir de Malik Shah, est une période de grande prospérité pour la ville. Les revenus de l'immense empire seljoukite sont utilisés pour faire de la ville un centre artistique et scientifique important. Des écoles comme le Nezamiye ou la Ibn Sina sont alors fondées et rayonnent dans la civilisation islamique. Omar Khayyam dirige l'observatoire d'Ispahan à partir de 1074 et crée le calendrier persan qui est encore utilisé aujourd'hui. Ispahan est prise par les Mongols vers 1244, mais elle ne souffre pas de destruction. Elle garde son importance et son activité économique en conservant le statut de capitale régionale. Par contre, Ispahan est mise à sac par Tamerlan en 1387. Celui-ci, au cours de ses conquêtes, rencontre de la résistance de la part de la ville qui se rebelle et refuse de payer le tribut qu'il veut imposer. En représailles, il ordonne à son armée de lui livrer les têtes de 70 000 Ispahanais avec lesquels il fera construire une colonne faite de leur crâne. Ispahan a alors perdu tout l'éclat qu'elle avait connu à l'époque seljoukite, ne s'étant jamais relevé des dévastations commises par Tamerlan quelques siècles auparavant. En 1588, Shah Abbas Ier s'intéresse rapidement à la ville pour laquelle il ordonne dès 1590-1591 l'édification d'un nouveau bazar et d'une grande place. Il finit par déplacer en 1597-1598 la capitale de Razvin à Ispahan, préférant un emplacement moins exposé aux menaces de l'Empire ottoman et également plus centrale dans l'Iran unifié par son ancêtre Ismaël Ier, premier roi safavite. Shah Abbas, administrateur énergique, prend en main le développement de la ville. C'est le roi lui-même qui planifie l'urbanisme de sa nouvelle capitale en s'inspirant peut-être de la ville de Herat, alors et encore centre culturel de l'Iran, ville se trouvant aujourd'hui en Afghanistan. Shah Abbas veut faire de la capitale un centre culturel qui éblouira les voyageurs occidentaux. Shah Abbas, en planifiant la ville, conserve les éléments existants et les intègre à son projet d'ensemble. Ispahan devient à partir du règne de Shah Abbas Ier la métropole des arts et des sciences islamiques et le centre de la culture spirituelle en Iran. Tous les penseurs iraniens de la Renaissance safavide qui apparaissent à cette époque sont ainsi regroupés sous l'appellation d'école Ispahan. Des philosophes comme Mir Damad, Molla Sadra Shirazi, Rajab Ali Tabrizi ou encore Razi Saïd Romi comptent parmi les penseurs influents représentant cette école. Au cours du XVIIe siècle, Ispahan, appelé Nisfeh Jahan, la moitié du monde, par les Persans, compte, d'après les voyageurs de l'époque, plus de 600 000 habitants et sans doute l'une des plus belles villes du monde.